Salut, c'est Alexis, on est le 7 mars 2025 et je vous parle en direct de l'aéroport de Busan où je termine mon séjour en Corée, voilà, ma petite semaine en Corée de vacances, avant de m'envoler pour Sapporo dans quelques minutes, je pense. Voilà, non, il reste un petit peu de temps, évidemment. Et donc voilà, je vais passer 5 semaines au Japon, en plus dans un mode un petit peu télétravail avec mon ami Axel. On va un petit peu quand même vadrouiller dans le Japon. Voilà, je vous raconterai ça, mais là j'avais envie de commenter quelques petites news qui sont parues. Donc voilà, j'ai 5 petites news comme ça que je vais un petit peu vous partager. Et voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Je pense pour cet épisode peut-être laisser un petit peu l'ambiance de l'aéroport. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est sympa ou pas? Ou est-ce que vous préférez quand il y a tous les algos d'IA de traitement audio, parce que je pense que c'est vraiment l'IA, mais de traitement audio qui enlève les bruits de fond. Bon, voilà, ça c'est un petit test. Moi, ce que je peux vous dire, ce que j'ai envie de commenter en tout cas, c'est, alors première chose, c'est le modèle GPT-4.5, dont pas tant de gens parlent, et donc je vais passer assez vite dessus. Ludo Salen a fait une grande vidéo, je trouve pas très intéressante et surtout pas très concluante, et c'est pas vraiment sa faute, j'apprécie vraiment qu'il essaye, mais je trouve que ces modèles, et surtout ce modèle 4.5, qui est donc censé être plus dans la conversation, dans il hallucine moins, il est... C'est leur modèle un peu généraliste, et donc qui est censé plus avoir une vibe humaine. Voilà, c'est comme ça que OpenAI le vend. Et donc forcément, c'est très très dur à tester, je trouve. Et donc il essaye, mais ces tests sont, je trouve, assez peu concluants. Des fois, on a l'impression que GPT-4o répond mieux. Mais bon, voilà. Il y a aussi une vidéo de Matt Wolff où il en parle un peu, mais il dit un peu la même chose. Il dit, bon, bah, on peut pas... voilà, il répète un peu ce que dit OpenAI, il y a un peu les benchmarks. Mais voilà, moi franchement, à part sur la question des hallucinations, à la limite, où peut-être il y a un progrès. Ce modèle aussi, Sam Altman a précisé qu'il coûtait très cher, qu'il a été très très long à entraîner. Il coûte très cher à l'inférence aussi, c'est-à-dire au moment où on l'appelle. Donc via l'API d'ailleurs, il coûte assez cher. Il n'est pas disponible, je crois, sur les plans gratuits, donc ça montre aussi que pour eux, ça coûte cher. Voilà, est-ce qu'on en a besoin, en fait? Et ça m'amène d'ailleurs un petit peu, le prochain épisode, c'est une interview de Rémi Maron, que j'ai interviewé pour parler justement un petit peu de la sobriété numérique et de la frugalité de l'IA. Et voilà, moi j'arrive à un point où vraiment, j'ai envie de passer vite sur ce sujet, parce que on atteint un plateau, j'arrête pas de le répéter, et en plus, comme on a atteint un plateau, les constructeurs se sentent obligés de rajouter de la technologie. Et donc, on s'éloigne de la frugalité, franchement. Et donc, on consomme beaucoup de ressources pour des progrès marginaux. Moi, c'est ça que je pense que je retiens un petit peu de GPT-4.5. Et ce côté, en plus, moi, il y a un petit truc aussi, et là, c'est un sujet un peu différent, mais donc ce côté, ce qui est plus humain, qu'il est meilleur en écriture, etc. D'ailleurs, il y a un moment, il y a une... Ludo Salen, il lui pose une question, il lui demande de l'aider sur le... à vaincre un peu son burn-out. Enfin, bon, regardez. Ouais, en fait, j'ai envie de lui dire, mais parle avec des gens, quoi. Tu vois, je veux dire, déjà, il s'en rend compte lui-même. Mais on n'a pas envie. Est-ce qu'on a vraiment envie que des IA deviennent assez. Je sais pas. Enfin, il y a un truc un peu comme ça où je me dis, en fait, moi, en tout cas, j'ai envie d'utiliser de l'IA sur des sujets pas spécialement humains, quoi. Pour du code. Alors, évidemment, les humains font du code, hein, mais je veux dire, enfin là, il y avait tout un pan de cette vidéo où, et même dans la communication d'OpenAI, où on se dit, bon, bah, ça y est, on arrive sur des modèles qui peuvent commencer à remplacer les humains, vraiment, même dans leur, dans la, quelque sorte, la chaleur, l'empathie, des interactions, etc. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Franchement, c'est vraiment, je m'interroge là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je pense que je vais vraiment me concentrer sur l'analyse, enfin, en tout cas, le commentaire des IA qui font du code, qui font des sciences, qui font des choses techniques, parce que déjà, on peut plus facilement mesurer les progrès, et puis parce que c'est là où je trouve qu'il y a de la valeur ajoutée, parce que ça, c'est des choses que potentiellement, on ne sait pas faire, en fait. Je veux dire, être gentil et répondre à des questions, franchement, j'ai envie de dire, tout le monde s'en doué d'un peu de bon sens, et non pas si peu, peut le faire, alors que malheureusement, tout le monde n'a pas le temps, ne peut pas apprendre à coder. Et donc, ça apporte vraiment quelque chose d'avoir des modèles qui codent très très bien, quoi. Donc, voilà, et évidemment, il y a des développeurs, mais ces modèles-là vont aider aussi les développeurs. Voilà, c'est un peu le sujet d'ailleurs de l'épisode précédent, là où je commentais la vidéo de MiCode. Il faut toujours des bases techniques, tout ça aura du sens, va aider à mieux utiliser les modèles. Mais ce côté, cette vibe humaine, ou je ne sais pas comment ils l'ont dit, l'OpenAI, j'ai oublié déjà. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Bon, bref, donc voilà, c'était un peu ce que j'avais à vous dire sur GPT-4.5. Allez regarder éventuellement la vidéo, mais surtout faites preuve un peu de discernement, faites vos propres tests. Mais voilà, c'est toujours un truc de comparaison. Moi, j'ai envie de dire, si un modèle vous convient bien déjà au quotidien, vous n'avez pas forcément besoin d'en changer pour les mauvaises raisons, en tout cas. En tout cas, il faut se poser les questions. Voilà. Autre news plus importante, peut-être j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, mais bon, j'ai un peu tendance toujours à commencer par l'IA. Dans notre écosystème no-code, on a une société en France qui s'appelle NCScale, qui a été cofondée par Benoît Moncler, et j'ai oublié le prénom de son associé, Stéphane, je crois, qui ont fondé une boîte, qui sont donc parmi les premières personnes dans l'écosystème français, peut-être un petit peu dans le monde hein, d'ailleurs, à s'être franchement intéressé, déjà depuis 2021-2022, à la question de la sécurité dans les outils no-code. Ils avaient communiqué sur le fait qu'il y avait des failles de sécurité dans Softr, des choses comme ça, qui étaient très intéressantes. Et ça les a amenés à faire un premier projet qui s'appelait No-Code No-Hack. Il y avait même une petite émission sur la chaîne Twitch de No-Code France. Et puis, ça les a amenés de proche en proche à travailler sur, à proposer donc un produit qui s'appelle NCScale, qui a été prévu sur plusieurs sujets, en fait. Le sujet de la supervision, tout d'abord. Donc, NCScale, ça permettait notamment de faire du contrôle de dépendance, donc se connecter à toutes vos automatisations, vos bases de données, pour pouvoir ensuite vérifier au quotidien que tout se passe bien. Et ça, c'est un vrai sujet, la supervision pour les gens qui font vraiment du no-code de manière professionnelle, notamment qui font du no-code dans leur entreprise à une certaine échelle ou pour des clients. La supervision, c'est hyper important. Néanmoins, je vais aller jusqu'au bout déjà. Donc ça, c'est ce qu'ils font. Des sujets aussi de documentation, voilà, ils s'étaient un petit peu éloignés du sujet de la sécurité qui était à la base, même si la supervision, ça rentre aussi un petit peu dans la sécurité, la qualité, etc. Et donc, malheureusement, ils ont annoncé, donc ils avaient levé un petit peu d'argent, 2 millions, je crois, un petit peu, beaucoup en réalité, c'est quand même une belle somme, mais peu dans le monde des startups, surtout des startups américaines, surtout dans les chiffres qu'on entend en ce moment avec l'IA, etc. Et donc, c'était intéressant, et donc, malheureusement, NCScale, que moi, je trouvais très, très intéressante, ils ont annoncé qu'ils allaient devoir s'arrêter. Après à peu près 3 ans, et malgré le travail qu'ils ont fait, les moyens qu'ils ont mis, ils n'ont pas réussi à trouver leur marché. Alors en fait, le poste de Benoît a été très intéressant parce que lui soulignait deux choses. Il y a deux problématiques. Une problématique technique, c'est-à-dire que pour faire un produit tiers qui se connecte à différents outils no-code, il faut que les outils no-code eux-mêmes l'autorisent. Et donc, ils avaient réussi à faire des partenariats avec certains outils. Ils avaient aussi réussi à un petit peu à reverse engineer certaines API. Enfin, voilà, mais bon, c'était mieux quand même de faire ça de manière un peu officielle. Et donc, ça, ils avaient forcément un peu des limites. Et puis, il y a une autre limite, c'est que les outils no-code eux-mêmes introduisent certaines fonctionnalités. Par exemple, dans NCScale, il y avait une notion de versionning des scénarios d'automatisation. Donc, versionning, ça veut dire quoi? Ça veut dire garder la mémoire des différentes itérations qu'on fait sur ce scénario. Et ça, petit à petit, ça a été introduit. Alors, Make le fait toujours pas très bien, mais Zapier, maintenant, le fait très bien. Enfin, et donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'ils étaient pas mal en avance. Il y avait beaucoup d'idées qu'ils avaient qui étaient là pour combler un peu des trous. Mais le truc, c'est que les outils no-code comblent aussi ces trous par eux-mêmes. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il y a un troisième truc. Je peux me permettre un petit peu ma vision, mais c'est quelque chose que je me dis depuis très longtemps, tout à fait honnête, donc je ne suis pas complètement étonné, même si je souhaitais vraiment que NCScale fonctionne. C'est que je pense qu'ils n'ont pas vraiment trouvé leur marché, et je pense qu'il n'y a pas encore vraiment, j'espère qu'il y aura un jour, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de marché pour un outil de ce type. Pourquoi? Parce que, en fait, le no-code, les outils no-code sont quand même beaucoup utilisés dans des contextes, on va dire, un petit peu semi-professionnels, si j'ose dire. C'est-à-dire, je le vois, on forme beaucoup chez Contournement de gens qui deviennent des freelances no-code et qui mettent en place des choses pour des petites entreprises. Le plus gros du marché, c'est les TPE, les PME. Ils mettent en place des automatisations, des choses comme ça, qui sont d'une petite envergure et qui sont aussi souvent pas critiques dans les opérations. Et donc, en fait, la nécessité de supervision n'est pas toujours, sur la supervision, je dis un sujet, hein, mais n'est pas toujours vraiment critique. Et surtout, comme beaucoup des gens, des freelances, etc., ne viennent pas du monde technique, ils n'ont pas forcément cette notion en plus de supervision et tout. Et donc, en fait, on est dans un marché comme ça qui va de plus en plus se professionnaliser. L'Association de Code France participe beaucoup à ça, Contour d'Amour participe beaucoup à ça, plusieurs acteurs participent à cette professionnalisation. Mais on est dans un marché encore où les gens déjà font des automatisations simples, plus ou moins avancées, mais ils les surveillent eux-mêmes. Ils les surveillent un petit peu en utilisant les logs d'erreur, etc. Et si une automatisation est en erreur pendant 2-3 jours, bah c'est pas très grave en général. Si c'est le client qui se rend compte et qui l'envoie à son freelance, en général, c'est pas très grave. Si c'est grave, bah, quand je dis c'est pas très grave, pour moi, l'échelle de c'est très grave, c'est faire décoller une fusée et faire en sorte qu'elle se... Elle n'explose pas en vol, quoi. Quand, alors évidemment, il y a des choses qui peuvent être impactantes pour une activité d'une entreprise, par exemple sur de la logistique, des choses comme ça. Mais il y a aussi, il faut relativiser, quoi. C'est-à-dire que, voilà, s'il y a des petites pannes, je le vois, hein, chez Contournement, bah, des fois on a des pannes, des fois on a des choses, un workflow qui ne s'est pas bien passé. Bon, bah, au pire, on rattrape à la main. On écrit éventuellement, par exemple, à notre client qui n'a pas eu son onboarding qui a bien fonctionné. On s'excuse. Et tout le monde est content, quoi. Il n'y a pas... voilà. Et donc, forcément, si on est dans un contexte un peu comme ça, de non-criticité, et je le vois chez nous, chez Contournement, je me suis souvent posé la question d'utiliser Adiscale ou d'utiliser Operator, qui était le concurrent qui a été racheté par Zapier et qui a été shut down par Zapier. Bah, en fait, j'avais le temps de le mettre en œuvre. Je me disais, non, ça ne vaut pas forcément le coup. Le temps, et puis surtout de payer aussi. De payer un abonnement ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, et donc à la fois j'étais conscient, moi je viens de ce monde-là, j'ai mis en place beaucoup de choses de monitoring pour des applications, pour dans mon contexte d'avant, d'agence, etc. Mais là c'est vrai que je ne voyais pas forcément, je ne trouvais jamais le temps en fait. Et ce n'est pas une bonne chose, hein, mais voilà, et donc j'imagine bien que voilà, ça c'est un petit peu ma vision, et donc c'est pour ça que c'est un marché qui n'est pas forcément mature, qui va le devenir, mais probablement quand il deviendra, les outils no-code eux-mêmes auront mis en place ce qu'il faut aussi. Je veux dire, actuellement, évidemment, vous recevez des erreurs quand vous avez des erreurs dans vos scénarios make, etc. Mais ce qui peut se passer souvent, là où Adiscale était très intéressant, c'était de calculer les dépendances entre vos scénarios make, par exemple, et vos bases de données Airtable. Actuellement, si c'est des choses qui fonctionnent de manière indépendante, donc si vous modifiez un champ, par exemple, dans Airtable, et que vous ne pensez pas à modifier un champ, une automatisation dans make, par exemple, et bah, vous pouvez avoir une erreur. Là, Adiscale pouvait vous aider à empêcher ces erreurs. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Mais voilà, il n'y a pas tant que ça, et moi, je le vois bien, il n'y a pas tant de sociétés qui utilisent des outils no-code avec un besoin important. Il y en a, mais de ce que je vois, aucune ne sont allées au bout de vraiment mettre la place Adiscale, etc. Alors, évidemment, je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait, et je ne dis pas que c'est un marché inexistant, c'est un marché juste qui n'était pas très grand. Et donc ça, je pense que ça a fait... Voilà, c'est mon analyse, je sais pas, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. En tout cas, c'était dommage, c'était un très beau projet, mais des fois, voilà, d'être trop en avance et de pas... Et puis, encore une fois, il y avait aussi les contraintes techniques et la concurrence des outils eux-mêmes qui faisaient que bon, bah, voilà, ça n'a pas marché, et c'est pas grave, ils ont essayé, et franchement, c'est très bien. Et je suis sûr qu'ils feront d'autres choses super pareilles. Voilà. Alors... Dernière petite chose que j'ai envie de vous partager, trois petites news un petit peu en vrac. Première news, c'est que le CEO de Anthropic a annoncé que la fonctionnalité de connexion Internet, de recherche sur le web, allait bientôt arriver dans Claude. Il n'y avait pas de date, mais ça va bientôt arriver. Donc ce fameux web search hein, que ont évidemment OpenAI, mais aussi Perplexity, qui est très connu pour ça. Cette capacité en fait, d'inclure du coup, des données fraîches qui viennent du net. Alors, il y a deux choses, hein. Inclure des données qui peuvent être plus spécifiques, qui viennent d'Internet, et aussi des données plus fraîches qui permettent d'avoir de l'actualité. C'est deux sujets un peu différents, mais qui sont permises par la connexion des modèles Internet. Bah, c'est vrai que c'est très intéressant, quoi. Donc voilà, ça combiné avec les fonctionnalités de deep thinking et tout, voilà, on peut imaginer que Claude, et ça j'en suis très content parce que moi c'est quand même le modèle que j'utilise le plus, et bah, on aura tout au même endroit. Il ne reste plus à ce qu'ils améliorent un peu les canevas. Et puis, voilà, aucune raison vraiment de rougir auprès des autres acteurs. Je dois préciser au passage que j'oublie souvent, mais je devrais mentionner Mistral qui a cette fonctionnalité-là, si je ne dis pas de bêtises, et qui est quand même une très belle alternative. C'est vrai que moi, je suis un petit peu attaché à Anthropic. Mais voilà, n'oubliez pas Mistral aussi, c'est important de le répéter. Autre news, le modèle Claude 3.7, qui est très bon en code, a été intégré dans Bolt, dans Windsurf, dans Lovable et dans tous les outils de génération d'applications et de travail avec le code. Voilà, moi j'ai fait un test, je dois dire que j'ai pas... Si, j'ai vu une différence quand même, mais bon, voilà, c'est une bonne chose, je pense pas que ce sera un truc radical, mais quand même, moi j'ai bien vu que Claude 3.7 était meilleur, donc dans le contexte d'outils comme Bolt qui rajoute une surcouche, c'est quand même très très bien. Et puis, dernière petite news, une news qui me tient à cœur, qui va peut-être pas parler à beaucoup d'entre vous, mais si c'est le cas, dites-le-moi. Donc, il y a un produit, un outil, une plateforme, je devrais dire plutôt, c'est le bon mot, qui s'appelle DIGG, D-I-G-G, qui a été fondée dans les années 2000, au milieu des années 2000, je pense en 2004, 2005 peut-être. Moi, j'ai connu ça en 2006, et c'était un outil qui était déjà en 2006, qui avait une certaine ampleur. C'est un des outils un petit peu précurseur de ce que l'on appelle le 2.0, la vague 2.0, le web 2.0. Enfin, pas précurseur, mais c'est un outil complètement dans cette vague. C'est un des premiers, des premières plateformes collaboratives, participatives, qui est entièrement animée par ses utilisateurs. Vous connaissez probablement une alternative qui a eu plus de succès, qui s'appelle Reddit. Et Reddit, c'est des espèces de forums avec une fonctionnalité clé qui est la possibilité de voter pour un contenu. Donc, c'est-à-dire les utilisateurs de la plateforme, les membres, les redditeurs, postent des liens, des contenus, et les autres votent. Quand quelque chose est intéressant, il y a plus de votes, et donc ça fait remonter dans le classement. Ça, ce concept-là, il a été inventé par DIGG. DIGG, en fait, en anglais, ça veut dire creuser. Et donc, en fait, dans DIGG, on pouvait upvoter et downvoter. Downvoter, ça se disait diguer, c'est-à-dire vous creusiez. Leur logo, d'ailleurs, c'était une petite pelle, pour l'anecdote. Et donc, vous pouviez creuser un peu la tombe, en quelque sorte, de ce qui avait été partagé, ou alors vous pouvez le faire remonter dans le classement. Et c'était hyper intéressant, moi j'adorais ce projet. C'est un des... C'était juste au moment où je terminais mes études et je me suis lancé dans un premier projet moi-même, avec deux amis, d'une plateforme collaborative autour du voyage, qui a été pas mal inspiré aussi par DIGG. Il n'y avait pas du tout ces mécanismes de vote, etc. Si d'ailleurs, il y avait ces mécanismes de vote, je commençais à oublier à perdre un peu les bras. Mais voilà, mais DIGG, vraiment, c'était hyper intéressant. Et surtout, le fondateur de DIGG, Kevin Rose, était vraiment quelqu'un d'hyper charismatique, qui avait aussi un podcast à côté. C'était un des premiers podcasteurs. Il a une petite émission. Enfin, c'était vraiment il y avait tout un univers autour qui était absolument génial. Donc voilà, c'est un petit instant un petit peu nostalgique. Mais voilà, et Kevin Rose était hyper cool. Et d'ailleurs, je me souviens, c'était aussi. Ce que j'appellerais un petit peu, c'est pas moi d'ailleurs qui l'appelle insolent, c'est le début de ce qu'on appelle un peu la revanche des nerds. Souvenez-vous, c'est aussi les tout débuts de Facebook, etc. Et en fait, c'est le moment où le web, tel qu'il a envahi notre quotidien, en fait, naissait. Twitter est né en 2007, je crois. Enfin, c'était donc aussi après ce web 2.0, il y a eu les réseaux sociaux. Mais il y avait plein de plateformes comme ça, plusieurs qui sont nées, mais DIGG était une des premières et qui m'a absolument passionné, moi, qui me donnait envie vraiment de faire des choses. C'était aussi cet écosystème très start-up, c'était aussi le début vraiment des start-up. On sortait, en fait, il y a eu le crash de la première vague de start-up, la dot-com, en 2001. Et donc là, on est vers 2004, 2005, 2006, 2006 vraiment. On est à un pic où plein de ces startups sont très, très valorisées. DIGG, à un moment, a été très, très bien valorisé. Il y a eu une proposition de rachat, même par Yahoo, je me souviens, à l'époque, 500 millions, qui était une somme énorme à l'époque, et sur laquelle ils ont passé. Et pour l'anecdote aussi, moi, je me souviens bien, donc pour revenir à ce sujet de revanche des nerds, donc Kevin Rose, c'est un mec qui est hyper cool, mais c'est quand même un peu un nerd à la base. Tout ça, c'est des gens qui sont quand même des passionnés d'informatique et tout, un peu comme moi. Mais qui sont devenus, qui ont commencé à devenir très cool parce que c'est eux qui faisaient les startups les plus en vue. Et je me souviens, j'avais vu une news qui était passée à l'époque où carrément, en fait, donc, ils signaient des autographes. Et donc, il y avait même une jeune femme qui lui avait demandé de signer sur son décolleté. Et à l'époque, j'avoue, alors j'avais 24 ans même. Ça m'avait quand même fait une très forte impression. Je me suis dit, bon, en plus, ces gens-là se deviennent un peu des rockstars, quoi. Et voilà, et ça a été, et on voit hein, un peu ce que ça a donné hein, maintenant quand on voit ce que sont devenus les Jeff Bezos, les Mark Zuckerberg qui font du MMA, qui font tout et n'importe quoi. C'est devenu vraiment un peu des rockstars dans le mauvais sens du terme, enfin, avec tous les pires choses aussi, un peu très masculinistes et tout. À l'époque, c'était pas du tout ça, c'était plutôt cool. Et voilà, c'était des gens un peu introvertis, un peu nerds, mais qui devenaient cool, quoi. Bref, bon, je sais pas si vous étiez là à cette époque et si ça vous parle, mais voilà, moi, c'est vrai que j'ai commencé à beaucoup, beaucoup m'intéresser au web. J'ai toujours été très intéressé par le web, mais à cette époque. Et voilà, et donc, c'était une très, très longue intro pour une news, mais j'avais envie d'en parler parce que, voilà, c'est moi, en tout cas, c'est une grande source de motivation. Ceci Dig est complètement tombé en désuétude, a été racheté de multiples fois, racheté, revendu, désossé, à tel point que j'ai aucune idée d'ailleurs de ce que c'est vraiment devenu. Par contre, Reddit, qui à l'époque était un concurrent, a complètement explosé et est devenu énorme aujourd'hui, évidemment. On connaît tous Reddit, mais je me souviens moi très bien, à l'époque, je voyais Reddit, c'est quoi cette copie un peu nulle de Dig ? Voilà, surtout que Dig, le design était quand même assez léché et tout. Reddit, c'est quand même un peu brut, toujours aujourd'hui, mais c'est normal, hein, ça va avec le concept. Mais voilà, et donc... Il y a une news, c'est que Dig a été racheté. Il a été racheté par deux personnes, et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup le temps de faire aussi cette longue intro. A été racheté par deux personnes. Une personne qui est Kevin Rose, le fondateur original, qui entre-temps a fait plein de choses intéressantes, et plus ou moins intéressantes hein, d'ailleurs, mais il a fait plein de choses. Il a fait une série de NFT qui était assez cool d'ailleurs. On pense qu'on veut des NFT, mais son projet était vraiment pas mal. Et donc c'est un mec qui a bien réussi, donc peu de moyens. Et donc il a racheté avec une autre personne qui est Alexis Ohanian, qui est un des fondateurs de Reddit, un des cofondateurs de Reddit, dont il est sorti déjà depuis quelques temps. Alors, il était sorti assez longtemps, puis il était re-rentré, puis il était revenu, il était CEO, puis il est sorti déjà quelques années. Et donc, ils ont racheté ensemble Dig, à mon avis, pour pas grand-chose, surtout que c'est toutes deux personnes qui sont vraiment très, très fortunées, et qu'ils vont relancer, et notamment qu'ils vont relancer grâce à de l'IA. Alors, il n'y a pas vraiment les détails, c'est une news qui est toute fraîche, mais je suis assez curieux, et j'aime bien cette idée un peu de deuxième vie et de relance, et voilà. Et évidemment, j'en parle aussi parce qu'il y a ce sujet l'IA. Mais c'est vrai qu'on voit, l'IA donne des capacités nouvelles, des potentialités, des choses nouvelles, et donne la possibilité essayer de reprendre peut-être des idées qui avaient été abandonnées par le passé, peut-être qui étaient trop tôt, peut-être qui étaient... Et voilà. Donc, bon, voilà, vous faites ce que vous voulez de cette news. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. C'était un long épisode et je vois que je m'approche du temps où je dois aller embarquer. Donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt.